Europe Midi, Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Les inondations dans le sud-ouest, évidemment, à la une d'Europe Midi. Il pleut encore beaucoup. On sera en direct avec notre correspondant Stéphane Place. On sera en direct avec le maire de Larens. Notez que les déplacements sont déconseillés par le préfet dans les Pyrénées-Atlantiques. La taxe foncière, elle va augmenter comme jamais depuis le début du siècle. C'est la taxe payée par les propriétaires de logements. Les explication de Carole Ferry. Cette annonce faite ce matin par Roselyne Bachelot, la France va ouvrir ses archives judiciaires de la guerre d'Algérie avec 15 ans d'avance. Pourquoi ? On verra ça avec l'ordre d'Autriche. Nos informations sur Éric Zemmour et sa campagne, les dons affluent. On verra également qu'il part demain pour l'Arménie. Information de Victor Chabert. Et puis la météo, c'est important aujourd'hui, bien sûr. Quelle est la tendance, Anissa Haddadi, notamment dans le sud-ouest hein ?
Eh bien, dans le sud-ouest, malheureusement, je suis au regret de vous dire, Romain, que ça va continuer. On a encore de fortes pluies prévues pour cet après-midi avec des cumuls exceptionnels attendus dans la région. Alors, on ne va pas battre les records que la région a connu en 2009, mais ce sont des chiffres assez importants de cumul jusqu'à demain matin pour ces fortes pluies. On a encore de la neige qui tombe dans l'Est, des conditions de circulation difficiles sur la grande partie du pays et toujours des 12 départements vigilance orange.
Restez bien avec nous Anissa, on vous retrouve à la fin d'Europe Midi pour une météo complète.
Europe 1.
Et on part tout de suite dans le sud-ouest sous les eaux. Il pleut donc beaucoup. Le trafic ferroviaire est interrompu entre Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port. On va d'abord faire un point complet avec vous, Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest. Stéphane, bonjour. Quelle est la situation maintenant et vers quoi se dirige-t-on dans les prochaines heures ?
Alors, alors où on parle dans les Pyrénées-Atlantiques, au Pays Basque comme dans le Béarn, les secours restent mobilisés. Ils le sont depuis hier avec 160 interventions réalisées par les 148 pompiers déployés sur le terrain, sans oublier 60 gendarmes. Beaucoup de mises en sécurité, pas mal de difficultés de circulation notamment. Vous évoquiez à l'instant la liaison ferroviaire Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port qui est interrompue. Et puis, vous allez l'entendre, je viens de joindre le préfet du département, Eric Spitz, pour un point complet de la situation.
La quasi-totalité des interventions ont été des évacuations préventives de personnes dans des maisons qui étaient menacées par les eaux. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de victimes. Il n'en reste pas moins qu'il y a d'importantes perturbations de la vie courante. Deux collèges sont fermés à Saint-Étienne-de-Baïgorry et à Pontac et 18 écoles sont fermées, essentiellement dans le Pays Basque. Et l'autoroute A63 au kilomètre 176 est en train d'être inondée entre Bayonne-Nord et Bayonne-Sud et elle est sur le point d'être coupée. Normalement, on devrait, à compter du début de la nuit, avoir une légère décrue, mais la limite pluie-neige est remontée assez haut cette nuit à 2500 mètres et c'est surtout les importantes fontes de neige qui nous inquiètent.
Et donc, vous l'avez compris, l'appel à la prudence reste d'actualité avec notamment un message pour les automobilistes, ne surtout pas franchir les barrières qui interdisent en raison de ces inondations l'accès à de nombreuses routes du département.
Oui, soyez extrêmement prudents si vous devez circuler dans les Pyrénées-Atlantiques. Il est recommandé de ne pas prendre sa voiture et de rester chez soi. Merci beaucoup Stéphane. On est en direct avec Robert Cazadebé. Bonjour Monsieur le maire. Maire
oui,
de
bonjour à vous.
Larens. Vous en êtes où là, à l'heure actuelle, dans votre commune ?
Et écoutez, nous sommes en situation de crise depuis hier soir 19h avec la mise en place d'un plan communal de sauvegarde et tous les services mobilisés parce qu'effectivement, nous nous retrouvons dans la configuration de 2019 quasi identique avec des pluies torrentielles exceptionnellement puissantes qui ont duré toute la nuit, qui vont continuer toute la journée et que donc par rapport à ces enjeux-là, des dégâts importants sont à signaler sur la partie haute de notre village, de la Reuse, qui compte 1200 habitants. Il n'y a pas de pépins humains, c'est ça je veux le dire prioritairement.
Pas de victimes, c'est le principal, oui.
Pas de victimes, c'est le principal. Nous avons mobilisé toutes les entreprises avec les moyens de techniques adaptées, pelles mécaniques, camions, ainsi de suite, pour dégager, essayer de contenir les flots. Après, nous constaterons les dégâts qui seront encore une fois importants comme en 2019 et on se retrouve dans une configuration de crise. Notre souci, c'est que, comme vous l'avez dit, la météo nous annonce encore des pluies à raison de 3 mm par heure jusqu'à ce soir minuit au moins sur site, après tout ce qui s'est passé depuis 24 heures. Et bien évidemment que s'il fallait évacuer des personnes, nous sommes en mesure de les accueillir sur des sites communaux, bien évidemment. Nous avons mobilisé nos pompiers, une vingtaine de pompiers, nos services techniques, les entreprises. Et bien évidemment que notre priorité, c'est l'humain. On décidera cet après-midi, je suis avec la sous-préfète en mairie de Larens, pour voir si ça continue à s'aggraver cet après-midi, s'il faut être dans l'anticipation pour héberger des personnes, comme je viens de le dire, et dans tous les cas, après, au-delà de la préservation de nos concitoyens, c'est constater les inondations puissantes qu'il y a. Tous les rez-de-chaussée sont inondés sur deux rues principales et que derrière, bon, mais, viendra le temps de la réparation. Mais d'abord, il s'agit prioritairement de contenir tous ces flots, ce qui n'est pas une petite bricole.
Oui, pour l'instant, c'est l'urgence. Vous gérez l'urgence parce qu'il faut bien comprendre, la Reims, c'est au pied des Pyrénées. Hein. C'est-à-dire que ce qui tombe sur les Pyrénées ruisselle jusque chez vous.
La Reims, c'est au pied des cols. On a le Tour de France qui passe régulièrement chez nous, entre l'Aubisque, le Pourtalet, Marie-Blanc, qu'on est le cœur de du bas des vallées, la descente des cols. Et bien évidemment, nous sommes entourés de montagnes, de bassins versants importants. Et donc, on a notamment un versant qui est un versant qui nous pose des soucis, les autres moins. Mais bon, la commune est en plus une commune très étendue, elle fait 25 000 hectares. C'est une commune très importante en territoire. Et donc, oui, on est dans un cœur de vallée montagnard, typiquement montagnard. Voilà. Et donc, il faut contenir les flots, il faut, avec les barrages, contenir les flux qui descendent torrentiellement. Et tout ça, c'est une coordination qui doit se faire entre tous les acteurs. Et le maire est au cœur de tout ce sujet, bien évidemment.
Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur le maire de La Reims, Robert Cazadebé, d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Ces dernières heures, il y a également eu de la neige avec des fermetures de routes, notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Yasmina Katou avec nous. Où en est-on à l'heure qu'il est ?
Alors, ce matin, toutes les routes sont désormais praticables, disent les préfectures de Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes. Quelques difficultés de circulation persistent. Sur la 38, dans le sens Pouilly-Dijon, les opérations de déneigement sont en cours. Il faut donc être patient. Dans le sens Dijon-Lyon, sur la 39, interdiction de circuler pour les poids lourds. En Savoie, la montée du tunnel du Fréjus est inaccessible. Conséquence, de gros bouchons sur la 43 entre Lyon et Chambéry. Chambéry, justement, qui s'est réveillé sous un épais manteau neigeux. Le réseau de bus est aujourd'hui à l'arrêt. Sur la 41, à Annecy, déneigement en cours. La circulation reste donc délicate. Les préfectures vous demandent de reporter votre voyage si possible. Météo France maintient sa vigilance orange neige-verglas dans l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et le Sud-Ouest.
Yasmina Katou, merci Yasmina. Et puis météo complète, hein, restez bien avec nous. À la fin d'Europe Midi avec Anissa Haddadi.
Europe Midi, midi 30, 13h, Romain Desarbres.
Il est 12h37, si vous êtes propriétaire de votre logement, écoutez bien, ou si vos parents sont propriétaires de leur logement, la taxe foncière va augmenter comme jamais depuis le début du siècle, depuis 20 ans. Une flambée qui devrait impacter d'autres impôts qui intègrent la valeur locative dans leur calcul. Carole Ferry, expliquez-nous, le point de départ de tout ça, c'est l'inflation, hein.
Et oui, puisque depuis 3 ans, c'est gravé dans la loi. Une partie du calcul de la taxe foncière doit prendre en compte l'inflation, ce qui veut dire une hausse minimum de 2,8% l'an prochain, peut-être même 3%, incontournable selon le premier vice-président de l'Association des maires de France, André Léniel.
L'inflation, chacun l'a subi, et au premier rang, les collectivités territoriales. Nous avons à rénover les écoles, nous avons à accueillir dans les crèches la petite enfance, à faire face aux obligations sanitaires, et il est naturel que nous puissions au moins travailler avec un euro qui soit constant, c'est-à-dire qui tienne compte de l'inflation.
Au total, cela devrait représenter un coût supplémentaire de plus d'1 milliard d'euros. Christophe Demerson est le président de l'Union nationale des propriétaires.
Avec la suppression de la taxe d'habitation, et ben maintenant il faut trouver des fonds, dépouiller une fois de plus les propriétaires. Mais ça ne va pas monter seulement de l'inflation, je vous le garantis. Les Français peuvent commencer à faire des économies parce que la facture va être douloureuse.
Une hausse qui sera appliquée lors de la prochaine taxe foncière, ce sera en octobre 2022.
Voilà, vous avez entendu, si vous payez la taxe foncière, il faut commencer dès maintenant à faire des économies. C'est un chiffre également sur lequel je voulais revenir dans Europe Midi. Écoutez bien, 100 000 exploitations agricoles ont disparu ces 10 dernières années. Vous avez bien entendu, 100 000 exploitations agricoles ont disparu. Les chiffres du recensement agricole ont été publiés ce matin. Maud Descamps avec nous, expliquez-nous comment ça s'explique, pourquoi ce chiffre ?
Oui, alors d'abord, il y a une question de pyramide des âges. C'est un problème qui est identifié depuis longtemps. Hein. La population des agriculteurs est vieillissante. Aujourd'hui, 18% des agriculteurs ont plus de 60 ans. Ils étaient 13% il y a 10 ans. Et le principal souci, eh bien, c'est le renouvellement des générations, comme le souligne le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie.
On continue à installer à peu près le même nombre d'agriculteurs aujourd'hui qu'il y a quelques années. Plus de 14 000 jeunes agriculteurs qui s'installent chaque année. Malgré cette attractivité, malgré ce dynamisme, on a un nombre d'agriculteurs qui partent à la retraite qui est en augmentation. Face au défi de ces départs à la retraite, il faut qu'on arrive à installer encore plus de jeunes que nous n'en installions ces dernières années.
Et puis, autre facteur qui explique cette baisse, eh bien, c'est la taille des exploitations. Le nombre de micro-exploitations, c'est-à-dire moins de 15 hectares, a baissé de 31% en 10 ans, alors que la surface agricole sur le territoire français est restée la même, ce qui veut dire eh bien, que les exploitations sont plus grandes. En moyenne, 69 hectares, c'est 14 hectares de plus qu'en 2010.
Merci beaucoup Maude. On va faire un point épidémie de Covid avec les tout derniers chiffres. Sachez déjà que 59 cas de variant Omicron ont été détectés en France. Pour ce qui est des doses de rappel, écoutez ce que nous a dit ce matin Olivier Véran, le ministre de la Santé, au micro de Maximilien Carlier.
Nous sommes actuellement sur une dynamique extrêmement forte, à la fois en dépistage. Près de 6 millions de tests sont réalisés par semaine. Deuxième dynamique très forte, celle des vaccinations. Nous avons réalisé plus de 710 000 rappels hier, ce qui fait que la France est le pays avec la plus forte dynamique au prorata de sa population en termes de vaccination de rappel. Nous sommes désormais à 12,5 millions de Français qui ont reçu le rappel. Avec tout ce que nous mettons en place, avec les vaccins dont nous disposons, que ce soit Pfizer ou Moderna, je vais nous fixer un objectif collectif qui est d'arriver à 20 millions de rappel d'ici Noël dans notre pays pour qu'on puisse terrasser cette cinquième vague et qu'on puisse enfin passer à autre chose.
Il est 12h40, restez bien avec nous. Dans Europe Midi, la France a décidé d'ouvrir avec 15 ans d'avance les archives judiciaires de la guerre d'Algérie. De quelles archives parle-t-on ? On vous dit tout dans un instant, à tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
C'est un message d'apaisement qui est adressé à Alger, aux Algériens. Roselyne Bachelot a annoncé ce matin que la France avait décidé d'ouvrir avec 15 ans d'avance les archives judiciaires de la guerre d'Algérie. Il s'agit, dit-elle, de regarder la vérité en face. C'est une décision qui intervient alors que les relations entre Paris et Alger ne sont pas les plus cordiales en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Laure d'Autriche avec nous. Laure, de quoi parle-t-on ? De quelles archives parle-t-on exactement ?
Alors, ce sont les archives sur les enquêtes de gendarmerie et de police pendant la guerre d'Algérie. Il y a par exemple des actes de torture commis par l'armée française en Algérie, et c'est l'intérêt du pays que de le reconnaître, a dit Roselyne Bachelot. Certains historiens parlent de centaines de milliers d'actes de torture commis sur des Algériens par les forces coloniales pendant la guerre. Il y a une volonté de transparence, dit la ministre de la Culture, c'est nécessaire pour pouvoir ensuite construire une autre histoire, une réconciliation entre la France et l'Algérie. Elle dit qu'une réconciliation est possible si l'histoire n'est plus dissimulée. Et cette décision, eh bien, elle s'inscrit dans la politique de réconciliation initiée par le président de la République. Au mois de mars dernier, Emmanuel Macron avait annoncé que la déclassification des archives allait s'accélérer, que la procédure allait s'alléger progressivement pour les archives de plus de 50 ans.
Laure d'Autriche, merci Laure. La campagne 2022, la campagne pour la présidentielle. Valérie Pécresse poursuit sa tournée des fiefs de ses anciens concurrents à la primaire. Elle est dans le Nord, à Lille, avec Xavier Bertrand. Elle promet de faire une campagne, je cite, « main dans la main » avec le président du Conseil régional. Alexandre Chauveau, en direct avec nous. Bonjour Alexandre.
Bonjour
la,
Romain.
La candidate poursuit sa logique de rassemblement de sa famille politique avant de vraiment démarrer sa campagne.
Oui, et elle achève donc cette semaine chez celui qui, il y a quelques semaines encore, lui tendait la main pour former un ticket dont il aurait la place la plus importante. Mais c'est bien derrière Valérie Pécresse que Xavier Bertrand mènera campagne. Le président des Hauts-de-France accueille aujourd'hui la candidate sur ses terres et entend s'impliquer à 100% pour la gagnante du Congrès.
Je suis convaincu que la seule qui peut l'emporter face à Emmanuel Macron, elle est ici. C'est Valérie Pécresse et personne d'autre. Et c'est pour ça que dans cette campagne aussi importante, je vais m'engager à fond.
L'objectif pour Valérie Pécresse, c'est d'éviter de reproduire les erreurs de 2017 où François Fillon n'avait fait campagne qu'avec ses proches. Elle réserve ainsi une place autour d'elle pour chacun de ses ex-concurrents, au premier rang desquels donc Xavier Bertrand.
Il va être auprès de moi et un indispensable. Voilà.
Valérie Pécresse qui vient d'achever il y a quelques minutes une réunion publique devant des militants LR après avoir visité une entreprise de robotique de la région et pris un petit déjeuner avec Xavier Bertrand. Elle compte ensuite profiter de ses futurs déplacements pour parler à tous les Français et cela commencera dès lundi au cours d'une visite dans le Pas-de-Calais voisin auprès notamment des pêcheurs et des sauveteurs en mer.
Alexandre Chauveau, merci beaucoup Alexandre. 12h46. Près de 3 millions de téléspectateurs hier soir pour Éric Zemmour sur France 2. Il a débattu notamment avec Bruno Le Maire. Victor Chabert avec nous. Bonjour Victor.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
C'est vous qui suivez la campagne d'Éric Zemmour. Vous nous dites que les dons affluent déjà 2 millions d'euros ?
Oui, et je peux vous raconter cette scène qui s'est passée ce matin. J'étais au QG d'Éric Zemmour quand un facteur arrive avec un paquet d'enveloppes. Olivier Hubeda, le directeur des événements d'Éric Zemmour, en ouvre quelques-unes et ce n'était que des chèques. Le montant moyen des dons reçus est de 60 euros, mais parfois ce sont des centaines, voire des milliers d'euros dans les limites fixées par la loi, 7500. Dépasser les 2 millions d'euros de dons en quelques semaines, c'est bien plus rapide que prévu. Cet objectif était initialement fixé à la veille du premier tour. Le compteur monte aussi du côté de son parti Reconquête, lancé dimanche. 40 000 adhésions à 30 euros minimum la carte, soit plus d'1 200 000 euros supplémentaires en moins d'une semaine.
Victor Chabert, merci Victor. Éric Zemmour qui continue ses déplacements à l'étranger, il partira demain pour l'Arménie. 12h47, la campagne toujours, elle est passionnante cette campagne, on la suit évidemment dans Europe Midi. Arnaud Montebourg se met en scène sur les réseaux sociaux. Il veut mettre tous les candidats de la gauche à la présidentielle autour d'une table. Il a passé des coups de fil à tous les candidats, il s'est filmé. On en parle avec vous, Louis Dragnel, dans un instant. Il a mis les vidéos sur son compte Twitter. Je voulais qu'on écoute d'abord, bah tiens, le coup de fil à Jean-Luc Mélenchon.
Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile. Amitié.
Voilà, il a laissé un message à Jean-Luc Mélenchon. Louis Dragnel, ça ressemble à une initiative désespérée. Hein.
Bah oui, mais il y a quand même un bon signal, c'est que le téléphone sonne à gauche. Alors, Arnaud Montebourg l'avait déjà annoncé ce matin, donc il a l'intention de contacter les 5 candidats de gauche pour la présidentielle pour leur demander de se parler. Voilà chose faite, on vient de l'entendre. En tout cas, pour le moment, ce sont des simples messages qui sont laissés sur la boîte vocale des candidats. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'Arnaud Montebourg se met en scène en publiant ses vidéos de lui, en train de laisser ses messages donc à Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon ou encore Yannick Jadot, c'est dire à quel point la gauche, ou au moins Arnaud Montebourg, cherche à tout prix une solution pour tenter le rassemblement de la gauche. C'est la seule possibilité qu'ils ont à gauche, en tout cas, pour espérer se qualifier au deuxième tour. Mais il y a un problème quand même, c'est que cette initiative a peu de chances d'aboutir. Les candidats se parleront peut-être, mais concrètement, pour Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot l'a encore rappelé ici même hier au micro d'Europe 1, pas question de se désister au profit d'un autre candidat.
Merci beaucoup Louis Dragnel. Voilà, le téléphone sonne à gauche mais ça répond pas, en tout cas chez Mélenchon.
Bon, on verra, il y aura peut-être une suite.
Il va peut-être rappeler.
Ce sont des gens courtois.
J'imagine. 12h49, merci beaucoup Louis. Restez bien avec nous, dans un instant on part au bout du monde, on part en Nouvelle-Calédonie, référendum sur l'indépendance. Dimanche prochain on sera avec notre envoyé spécial, l'envoyé spécial d'Europe 1, Caroline Baudry. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h52, arrivée surprise imminente du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, dimanche se déroule en Nouvelle-Calédonie le troisième et dernier référendum sur l'indépendance de l'archipel français, boudé par le camp indépendantiste. Caroline Baudry, bonjour, vous êtes notre envoyée spéciale en Nouvelle-Calédonie. Pour suivre ce scrutin, petit point géographique, la Nouvelle-Calédonie à l'est de l'Australie. Comment est accueillie la visite du ministre, dites-nous.
Eh bien, c'est le camp indépendantiste qui, sans surprise, publie d'abord un communiqué cinglant. Cette visite est, je cite, une ultime provocation. Ils avaient demandé le report du vote à cause de la crise sanitaire, sans convaincre ni le Conseil d'État qui rejette la demande à Paris, ni le ministre Sébastien Lecornu. Pierre Chanel Tutugoro est membre de la coalition indépendantiste locale.
Je pense qu'il a perdu l'occasion de rester chez lui en France. C'est du mépris. Pour ne pas dire des mots encore plus forts. Dans la manière dont les choses ont été amenées, c'est nous écarter, nous, peuple colonisé, d'une consultation qui doit décider de l'avenir de notre pays. C'est d'abord notre pays à nous.
Il s'oppose à toute rencontre, toute discussion ici avec le ministre. Lundi s'ouvre pourtant une période de transition, 18 mois pour écrire l'avenir de cet archipel. Sonia Baquès, l'une des porte-paroles des pro-France, salue la présence du ministre.
Je ne vois pas comment on peut reprocher à un ministre de s'impliquer autant que ce qui s'implique. Il a suivi de près le processus depuis le départ. Ça a du sens qu'il soit là le soir des résultats, le lendemain. Je pense que la place du ministre est ici.
Merci beaucoup Caroline. On note également que l'État français a, pour ce scrutin, déployé un dispositif de sécurité exceptionnel. Hein.
Oui, les 2000 gendarmes et policiers arrivés en renfort de métropole se montrent partout pour mailler le territoire de 500 km de long. Des véhicules blindés sont même postés jour et nuit par endroit sur la route principale pour anticiper bien sûr d'éventuels débordements. Dès midi aujourd'hui, il est même interdit d'acheter de l'alcool, du carburant à emporter et des pétards et feux d'artifice dans les magasins.
Caroline Baudry, en direct de Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup, Caroline. Il est 12h54. On va parler sport à présent. C'est un championnat du monde de Formule 1 complètement fou. Le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi aura lieu dimanche. Et pour la deuxième fois de l'histoire, les deux derniers prétendants au titre sont à égalité. Parfaite. Axel May avec nous. Bonjour Axel.
Bonjour.
Dimanche après-midi, forcément, hein, c'est la loi du sport, il n'y en aura plus qu'un. Lewis Hamilton ou Max Verstappen.
Hein. Oui, alors si c'est le Britannique, King Hamilton deviendrait avec 8 titres mondiaux le seul recordman devant le Baron Rouge Schumacher. Si c'est le Néerlandais, surnommé Mad Max, ça veut tout dire, ce serait son premier titre à seulement 24 ans. L'ancien pilote Franck Montagny, qui commente les Grands Prix pour Canal+, n'ose pas se prononcer.
Aujourd'hui, c'est vrai que je dirais, allez, Hamilton, c'est un circuit qui lui correspond parfaitement. Il a souvent gagné ici avec Mercedes. Mais tout de suite derrière, j'ai la petite alarme qui me dit, oui, mais l'année dernière, c'est quand même Verstappen qui fait la pole, Verstappen qui gagne avec la Red Bull. Donc très sincèrement, je vais dire pole position de Verstappen, mais après pour la course, j'en sais rien du tout. Ils ont deux machines qui se valent à peu près. Les deux pilotes, ils se sont chauffés à blanc comme jamais. Donc franchement, on est à Hollywood là.
Voilà, Hollywood, ou comme le titre est ce matin en une, le journal d'équipe, c'est Abu Dhabi Vice, allusion à la série policière, hein, Miami Vice, car à égalité de points avant cet ultime manche de la saison, une question se pose. Vont-ils se départager à la régulière ou vont-ils tenter des coups tordus?
Merci beaucoup Axel May, ça sera à suivre évidemment à 14h sur Canal+. Merci Axel.